BFM connecté à votre région.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Julien Cuenot. Bonjour.
Bonjour.
Julien, vous êtes le dirigeant de la société Géolokit, mais aussi le président de Businessland. Nous allons changer un peu de thématique par rapport à nos autres émissions. Nous allons parler développement 3D. Nous allons parler aussi d'intelligence artificielle. Donc, je vous laisse présenter vos structures et vos activités.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien Cuenot, j'ai 27 ans et je représente deux entreprises. Comme l'a dit Sylvie, la première c'est Géolokit, qui est un outil de gestion configurable, principalement pour le BTP et l'industrie, mais qui s'adresse aussi à d'autres secteurs. Et Businessland, qui est, on est les premiers à proposer des sites web 3D.
Alors quand vous dites les premiers, vous le dites avec beaucoup d'humilité, mais vous êtes les premiers au monde à le faire.
Oui, c'est ça, oui.
D'accord. Basé dans la Nièvre.
Exactement, oui, à Guérigny.
À Guérigny, très bien. Alors, je vous laisse nous expliquer justement donc deux structures, deux sociétés qui font des choses très différentes. Géolokit, pour situer, c'est quoi ?
Alors, Géolokit, c'est venu après coup, parce que j'ai commencé tôt, pendant mes études, à vouloir entreprendre, mais sans savoir quoi faire.
Donc, D'accord.
À ce moment-là, j'ai créé une micro, et puis ça a commencé par de la réparation de téléphone, site web de temps en temps, et puis ça dérivait sur des applications sur mesure. J'ai développé différents types, une qui était pour la bande à coco. L'idée, c'était de mettre en avant tout ce qui était fait en France à proximité de chez nous.
D'accord.
Il y a une application pour les cimetières, pour trouver sa grand-tante, où est-ce qu'elle est située, et la retrouver rapidement.
C'est vous l'application pour les cimetières ?
Alors, c'est pas moi le porteur de projet, mais on a développé la première version pour ce client, justement, qui est Geosmartic.
D'accord.
Une autre application pour la Fabrique Emploi et Territoire, qui est en fait un serious game. Alors, contrairement à certaines applications qui vont dire... quel métier est fait pour toi parce que les statistiques disent ça. Nous, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'explorer une carte type jeu vidéo et de rencontrer des gens qui font différents métiers. Et on échange avec eux et on joue à des mini-jeux, ce qui nous permet de découvrir qu'est-ce qui se fait, par exemple, dans assistant de soins à domicile ou, bon, en ce moment, c'est secteur santé et social. Mm-hmm. On peut imaginer un spectre plus large.
Et donc ça, c'est une application qui est utilisée actuellement par la Fabrique d'Emploi et des Territoires ?
Alors pour l'instant, on travaille dessus, on est trois acteurs, il y a la fabrique porteur du projet,
oui.
Il y a un pédagogue qui est spécialiste dans les méthodes d'apprentissage,
oui.
Et puis nous qui développons l'application concrètement, qui mettons en musique les différentes idées. Et là, on est sur la phase de lancement.
Donc phase de lancement.
Voilà, elle a été présentée aux conseillers qui vont accompagner 10, 20 jeunes en groupe. Et bon, elle a déjà été présentée aux jeunes, puisqu'on l'a développée, on l'a co-développée avec eux,
oui.
Pour savoir ce qu'ils en pensaient tout au long du développement. Et le lancement, il devrait être fait très rapidement.
D'accord, donc un serious games pour trouver en fait le métier qui convient à chacun.
Voilà, bah, c'est,
en gros, c'est ça.
C'est surtout pour explorer, parce qu'un jeune qui va se rendre compte que ce métier-là, ça ne lui plaît pas, bah, mm-hmm. C'est déjà une avancée. Donc pas forcément lui dire c'est ça qu'il te faut, mais qu'il reparte avec plus d'informations que ce qu'il n'avait avant.
D'accord, donc pour éviter finalement les fausses routes, on se lance dans un métier, mais sans avoir forcément mesuré qu'il y avait des points dans ce métier qui pouvaient ne pas convenir à la personne. L'idée, c'est plutôt ça ?
Exactement, oui, savoir ce qu'on n'aime pas, et dans l'idéal, savoir ce qu'on aime. Et
oui.
On met ça sous forme d'humour, avec des caricatures de par exemple, Harry Potter, Marvel.
D'accord.
On peut imaginer Spider-Man qui s'est fait piquer par une araignée et qui est aux urgences, par exemple.
D'accord, donc avec quand même un côté jeu et de l'humour dans cette application.
Exactement, bon. On apprend mieux en s'amusant, on retient mieux en s'amusant.
D'accord. Alors, ça, ce sont donc les applications. On a parlé tout à l'heure de Géolokit. Mmh. Et Businessland, alors, du coup ?
Alors, Businessland, c'est... Bon, je rebondis un petit peu, du coup, sur l'application Serious Game. Là, c'est plus sérieux. C'est pas vraiment un jeu vidéo, mais on peut imaginer un jeu vidéo 3D où on déplace un avatar, qui est nous, dans un environnement 3D, qui est celui de notre côté du client. Donc si je devais imaginer un site web 3D pour 9RFM par exemple, ce serait remodéliser l'intérieur du studio et éventuellement ce qu'il y a autour. Et quand on arrive sur le site web, on se déplace en 3D et on peut interagir avec un calendrier pour prendre rendez-vous, avec un avatar qui est là pour nous vous informer sur ce qu'on a besoin.
Donc vous êtes en train de me dire que si on modélisait donc le site de Nevers FM en 3D, finalement je découvrirais au dernier moment qui sont mes invités, c'est ça? Ils pourraient prendre rendez-vous, ils pourraient venir là dans l'émission, enfin se rendre compte de la façon dont se passe l'émission, et finalement ils réservent en ligne et je me retrouve au dernier moment à découvrir, c'est ça? Un peu.
Ça pourrait être ça, mais je pense que c'est pas souhaitable de changer la manière.
C'est plutôt... Moi, j'aime bien échanger avant, quand même.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et justement, c'est ce qu'on veut mettre en avant sur certains cas d'utilisation. Nous, c'est plutôt pour mieux percevoir à quoi ça ressemble.
Et oui, se rendre compte de l'intérieur, en fait.
Se rendre compte de l'intérieur, se rendre compte du savoir-faire. Par exemple, oui. Si on fait un site web d'un chocolatier, on va voir qu'il a sa machine pour couler le chocolat juste à côté de l'accueil. On peut mettre des interactions pour mieux comprendre. C'est plus dynamique, plus interactif.
Et c'est une immersion totale, en fait.
C'est ça, oui. Puis au final, plus humain, parce que c'est comme si, comme dans la vraie vie, si on allait découvrir la boutique.
Oui. Enfin, l'arrière-boutique, là, pour le coup.
Ou si on la laisse accessible.
Ouais, si on la laisse accessible, oui. Donc ça, c'est destiné plutôt, finalement, grand public, en termes de clientèle et d'usagers, ou c'est aussi pour les professionnels?
Ah oui, notre cible client, c'est uniquement les professionnels, oui. Sauf si un particulier veut et qu'il a le budget pour faire un site 3D. Oui. Mais c'est plutôt pour les professionnels, oui.
D'accord.
Et grand public, oui, dans le sens où aujourd'hui, il existe des solutions similaires. Ça fait longtemps qu'on a des jeux vidéo 3D. Les problématiques, c'est que c'est difficilement accessible. Il faut soit un ordinateur très puissant, soit mettre un casque VR sur la tête, soit installer une application, soit... Enfin, il y a plusieurs contraintes et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est tout éliminer. Donc on clique sur un lien internet et on se retrouve directement en 3D, même avec un téléphone qui n'est pas puissant.
D'accord, donc en fait, c'est aussi là qu'est l'innovation, c'est que finalement, il n'y a plus besoin d'ordinateur puissant et ça peut se faire sur quasiment n'importe quel téléphone aujourd'hui.
C'est ça, oui, n'importe quel téléphone de moins de 5 ans, et puis d'autres qui étaient performants à l'époque, et surtout avec une connexion classique. On est à peine plus lourd qu'une page web 2D.
D'accord, ça c'est important parce que on a quand même dans certains secteurs des difficultés de connexion. On sait que il y a une certaine disparité ou inégalité selon les territoires. Donc quand on pense au développement justement technologique et des outils tels que la téléphonie et le web, on s'inquiète toujours de savoir si on pourra télécharger ou pas. Et donc là en fait c'est pas beaucoup plus puissant que de la 2D.
C'est ça, oui.
D'accord.
C'est ça, pour donner un ordre d'idée, une page web 2D, selon si elle est optimisée ou pas, ça fait entre 1 et 3 mégas. Mm-hmm. Nous, on a entre 5 et 10 mégas de 3D à télécharger. Et le concurrent le plus proche, qui est américain, quand nous, on télécharge 5 mégas, lui, il en télécharge 100.
Oui, donc là, effectivement, c'est pas du tout les mêmes usages, finalement, puisque là, il faut être équipé.
Complètement, oui. On est les seuls à être utilisables sans fibre, on va dire.
Sans fibre. Oui, c'est intéressant aussi, ça. Au niveau de vos équipes, vous êtes combien aujourd'hui sur les deux sociétés finalement?
Alors sur l'entreprise individuelle qui porte GeoLockit, on est 3 en ce moment.
Oui.
On est monté à 5, en ce moment on est 3. Je suis le seul au capital.
Oui.
Et sur Businessland, le site web 3D, on est 3 cofondateurs.
3 cofondateurs.
2 principaux avec des profils très complémentaires. Oui. C'est plutôt technique développement. Avec un petit peu de jeux vidéo, parce que ça m'a toujours amusé. Mon deuxième associé, Christophe, il était agent immobilier et plus récemment dans la PropTech, donc immobilier et technologie. Et le troisième associé, Pierre, il est spécialiste de la modélisation 3D, il a déjà travaillé sur différents métaverses, jeux vidéo pour Ubisoft, par exemple.
D'accord. Donc, il est important d'avoir justement des savoir-faire complémentaires. Vous parliez de votre deuxième associé qui, lui, vient de l'immobilier. Je suppose que, quand même, les sites 3D, ça doit avoir une certaine utilité dans tout ce qui est immobilier, voire bâtiment, peut-être ?
Ah bah, l'immobilier, oui. Pour ceux qui voient à peu près à quoi ressemble Google Street View, c'est oui. La 360, on peut se déplacer, tourner. C'est pas de la vraie 3D, mais pourtant Businessland, on est parti de ce même principe-là, à vouloir vendre des cartes de visite en 360 en étant à l'intérieur d'un bureau. Bon, l'idée a dérivé vers de la vraie 3D où on peut se déplacer et interagir, mais c'est parti de là. Et oui, l'immobilier est plutôt en avance sur ces sujets-là.
D'accord. Dans votre secteur d'activité, moi j'aimerais bien qu'on ait un échange par rapport au développement de l'intelligence artificielle, mais aussi de toutes les technologies 3D. On en parle beaucoup dans la presse, à la fois comme vraiment des outils hyper innovants, performants et importants pour le développement de notre société. Et en même temps, on a aussi beaucoup de craintes, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et donc, j'aimerais bien que vous éclairiez nos auditeurs sur les usages, l'intérêt que cela peut présenter d'avoir ces technologies qui se développent de plus en plus.
Alors, je trouve ça bien qu'on en ait peur, parce que bon, c'est un outil, mais comme tous les outils, on peut faire le bien et il peut y avoir des dérives.
Oui.
Si on prend l'industrialisation, ça a permis une avancée majeure, mais en même temps aussi créer des armes. Donc il
oui,
faut se méfier.
Donc, oui, ça peut être utilisé pour des choses qui sont moins sympathiques finalement que des jeux.
C'est sûr, c'est oui. Après, par contre, pour moi, il ne faut surtout pas bouder l'IA, il faut au contraire s'en servir. Ce qui fait nous, des humains, c'est en partie la maîtrise de l'outil. Et l'IA, c'est un nouvel outil très performant et surtout très très rapide à la manière de... Internet, ça nous a permis d'avoir une information très rapidement comparée à aller en bibliothèque.
Oui.
Bah, l'IA, ça va faire comme un moteur de recherche, mais encore plus rapide.
Oui, alors, c'est un moteur de recherche encore plus rapide. Souvent, les personnes se disent, est-ce qu'à un moment donné, l'humain risque pas de perdre le contrôle et l'intelligence artificielle de dépasser l'intelligence humaine? C'est souvent ça, en fait, dans les craintes que l'on peut entendre.
Ah oui, c'est sûr. Après, c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience et créer des outils dont on peut se servir, mais pas l'inverse.
D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que ce sont les concepteurs qui doivent paramétrer suffisamment bien leurs outils pour qu'à un moment donné, il n'y ait pas de dérive, c'est ça que vous nous dites?
Entre autres, oui. Après, pour avoir un risque majeur, on est quand même très très loin. Hein.
On est encore loin?
En plusieurs dizaines d'années.
On s'est un peu enflammé sur nos capacités actuelles?
Oui, non, c'est que là, on a un nouvel outil très pratique, mais pour qu'il puisse dériver et qu'il y ait des conséquences notables. On est loin d'une conscience, par exemple. Là, on crée des expertises rapides.
D'accord.
Donc, on lui dit, voilà, tu détectes un cancer sur une image de telle manière, on lui répète 100 000 fois, et il sait détecter un cancer. Mais on est loin de quelque chose qui peut réfléchir par lui-même.
D'accord. Donc ça, c'est important de le souligner. Alors, vous parliez justement de demander à des outils d'intelligence artificielle de détecter des cancers. Si on passe aux usages, justement, est-ce que ces technologies, que ce soit l'intelligence artificielle de façon classique ou que ce soit les modélisations 3D, est-ce que justement, ce sont des techniques qui peuvent permettre des avancées importantes en termes de médecine, notamment ? Puisqu'on parlait du cancer il y a un instant.
Oui, complètement. Complètement.
Quels sont les usages, selon vous, qui sont déjà aujourd'hui de vraies avancées et ceux qu'on peut espérer pour demain?
Alors, bah, aujourd'hui, déjà, pour détecter je ne suis pas médecin, mais pour détecter des problèmes sur le corps humain à partir d'images, c'est très performant, plus performant qu'un humain. Le risque d'erreur y est beaucoup plus faible, parce qu'en fait, on lui apprend à détecter quelque chose avec des centaines de milliers de résultats qu'on sait que c'était la vérité.
D'accord.
Donc, on a, par exemple, sur quelque chose comme ça, on a moins d'erreurs que le meilleur spécialiste, par exemple.
On risque moins de passer à côté de quelque chose d'anormal, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Alors après, il ne faut pas enlever le métier du spécialiste, parce que c'est comme ça qu'on instruit une IA, mais par exemple, pour avoir une première idée, c'est très pratique, on est déjà aiguillé.
Oui, j'entends que ça reste une aide en fait, une aide au diagnostic, une aide, l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi, mais c'est une aide.
Ah oui, et puis surtout, alors là du coup je rebondis sur des usages qu'on a nous, elle se trompe, déjà elle peut se tromper si elle a mal été éduquée, et elle se trompe aussi si je prends par exemple ChatGPT qui est un générateur de texte avec qui on peut discuter.
Tout le monde en parle.
Il va chercher à donner la réponse la plus probable. Donc si je lui demande quel film de Matrix est joué par Sylvie, il va nous sortir le truc le plus probable parce qu'il aura vu dans, il aura vu dans le générique qu'il y avait Sylvie qui avait travaillé sur de la modélisation 3D ou autre.
D'accord.
Donc il faut se méfier parce qu'il répond des choses fausses et il veut tout le temps satisfaire le plus probable. Donc,
oui, oui, voilà, sur Matrix, s'il me trouve, c'est qu'il y a un problème, il s'est trompé.
Voilà, ouais.
Ça ne risque pas d'arriver.
On peut même lui demander où Sylvie était l'actrice principale. Et il va quand même répondre.
D'accord, ok. Bon, donc effectivement, ce sont des outils qui peuvent se tromper, c'est important de l'avoir en tête. Si on parle maintenant de la modélisation 3D, donc vous nous avez expliqué les usages hein, par rapport à ce que vous faites sur des sites internet où on peut faire de l'immersion. On a vu tout à l'heure qu'effectivement l'immobilier est un peu en avance. Quels sont les usages que vous présentez là en termes de développement justement pour ce type de site ?
On est en plein dedans parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs et encore moins qui sont fonctionnels à 100% aujourd'hui, on crée aussi un peu la réponse aux besoins avant qu'il y ait vraiment le besoin. Mais nous, par exemple, ce qu'on voit bien, c'est plutôt qu'un site e-commerce, Amazon ou autre, où on défile des pages, on clique, nous, on voit plutôt, on est chez l'artisan local ou même une grande surface, ça marche aussi, mais en immersion dedans, et on a des avatars qui se déplacent, mais c'est des vrais humains.
D'accord.
Des vrais humains avec qui on peut lancer une visio, par exemple, pour qu'ils nous montrent la qualité d'un textile ou autre, et discuter en 3D, en immersion, mais avec de vrais humains.
Avec de vrais humains. Donc, si je fais un parallèle, c'est peut-être une bêtise hein, ce que je vais vous dire, mais par exemple, parce qu'on a souvent opposé le e-commerce et les commerces locaux. Finalement, ça serait peut-être une solution pour permettre, si j'ai bien tout compris, que je puisse échanger avec le petit commerçant du coin parce que je ne peux pas me déplacer et lui va en interactivité va me montrer ce qu'il a dans son rayon, c'est un peu ce que vous me dites là ?
Moi c'est ce que j'aimerais bien mettre en avant, oui, justement, oui. Donner un avantage à l'expert qui connaît bien son métier, qui fait ça depuis 20 ans et qui a un vrai savoir-faire.
Oui, mais du coup c'est important ce que vous me dites là parce qu'on change complètement la vision que l'on a du e-commerce. Très standardisé avec des photos, alors c'est utile. On ne sait, c'est notamment hein, depuis la crise du Covid, ça s'est amplifié. On dit les gens ne vont plus chez les commerçants, tout s'achète en ligne. Et finalement, les petits commerçants, eux, en pâtissent. Est-ce que c'est pas un moyen pour les commerçants de tirer leur épingle du jeu tout en gardant ce côté de proximité, puisque ce sont eux qui vont faire visiter finalement leur commerce ?
Bah si, je pense. Et d'ailleurs, c'est une de nos problématiques, c'est que vu qu'on essaye d'être au plus proche du réel,
oui.
Au final, là, on a une technologie qui est, comment dire, plus avancée qu'un site web 2D, mais qui, au final, nous rapproche de la réalité.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, de fait, ça peut être utile, effectivement, à tout type d'entreprise, y compris les entreprises de plus petite taille qui, jusqu'à présent, étaient peut-être un peu... exclu, encore qu'il y a des petites entreprises qui se sont mises au e-commerce, mais ce n'était pas forcément évident.
Oui.
Peut-être que là, ça peut être plus simple.
Ah ben, oui, je pense sur deux sujets. Déjà, ce n'est pas Amazon qui va nous passer commande. Donc, si c'est l'artisan qui nous passe commande, déjà, il sort du lot. Il a un truc qui n'existe pas et il sort du lot. Et de toute façon, admettons, un jour, tout le monde a son site 3D. Celui qui a une vraie expertise, qui est tout seul dans sa boutique ou qui a une petite équipe, il saura mieux conseiller un client que Amazon, par exemple, où il y aura peut-être une centaine de personnes, mais pour des millions de produits.
D'accord. Oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire. Actuellement, dans cette phase de développement, vous visez un petit peu aussi les marchés publics, les acheteurs publics ?
Oui, complètement. sur les deux entreprises, d'ailleurs, demain, on est à Paris pour un speed dating avec le ministère de la Justice pour les achats. Donc l'outil de gestion, il a attiré leur attention parce qu'il est 100% made in France, même 100% Neversoie d'ailleurs.
Oui.
Et 100% configurable aussi.
Donc d'accord.
On s'adapte au métier, ce qui peut leur rendre service sur les aspects calendrier, cartes interactives pour voir ce qui se passe, où ça en est rapidement en un coup d'œil.
On a moins développé justement l'outil de gestion par rapport aux autres applications. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce que l'on peut faire avec cet outil ?
Alors, pour ceux qui connaissent le terme ERP, c'est un ERP. C'est un outil de gestion no-code. No-code, ça veut dire configurable. Et en essayant de faire technique, mais pas trop, c'est que l'outil de base, il est vide. Il n'y a pas grand-chose dedans.
Oui.
Et on va créer des outils. Par exemple, on veut des interventions. Donc, on va créer un outil intervention. Ce qui va nous permettre d'avoir une liste d'interventions. Dedans, on leur ajoute une date, une localisation, des techniciens qui vont intervenir sur site, et on peut configurer son outil comme ça. Et une fois qu'on a saisi ces différentes informations métiers,
oui.
qui, en plus on réutilise les termes de l'entreprise, donc ça évite aux gens d'être perdus. On a deux outils principaux qui sont un calendrier collaboratif qui est partagé entre les superviseurs, les techniciens qui interviennent sur site, et une carte interactive en temps réel. Comme ça on voit aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, il y a une inter ici, une inter là-bas, une expertise à faire autre part. Et on voit avec un petit picto si c'est terminé, s'il y a un problème. Et différents petits raccourcis comme ça. Le technicien qui est sur site, il peut faire un compte-rendu en un clic. Il peut faire signer le client. Il peut dire j'ai un problème. Et comme oui. ça, le superviseur le voit instantanément. Et ça simplifie du coup le boulot du technicien, du superviseur. Et ça permet de donner une réponse au client rapidement aussi. Parce que le superviseur sait parfaitement
oui, où
ça
va beaucoup plus vite du coup.
Oui.
D'accord. Nous avons parlé d'intelligence artificielle, nous avons parlé de sites 3D, de sites web 3D, pardon. Je voudrais maintenant qu'on aborde plutôt votre parcours et que vous m'expliquiez à quoi rêvait le petit Julien.
Alors, contrairement à beaucoup, je ne voulais pas être pompier ou policier, non, je voulais être scientifique.
Scientifique. Et pourquoi ça ?
Je pense principalement à l'influence des dessins animés que je regardais, où il y avait des inventeurs qui créaient des objets, des gadgets, soit loufoques, soit utiles, des véhicules, ce genre de choses.
D'accord. Donc déjà la création. Alors, je rappelle quand même, vous l'avez dit en tout début d'émission, mais vous avez 27 ans. Et ça fait combien de temps que vous avez vos entreprises ?
J'ai perdu la notion du temps. Mais la première micro-entreprise, c'était en deuxième année d'école.
Oui, parce que vous avez créé votre entreprise en même temps que vous étiez étudiant.
Oui, en 2016.
Bon, d'accord.
Au début, ça servait à rien. L'entreprise, elle était là, mais au moins, c'était prêt. bon, je dirais que je suis 100%... C'est ma seule source de revenus depuis 3 ans.
D'accord. Ouais. Mais ce goût d'entreprendre, très tôt, en fait, il est venu comment ? Parce que du coup, vous avez créé votre première entreprise, même si elle ne vous permettait pas d'en vivre, mais vous étiez étudiant.
Oui, alors... Première idée, c'était de devenir riche, mais ça n'a pas marché.
Maintenant, pas encore.
pas encore, mais bon, par contre, après, il y avait aussi d'autres aspects qui sont aujourd'hui peut-être les plus importants, c'est le fait de pouvoir, créer ce qu'on a en tête, concrétiser une idée et le faire de la manière dont on veut.
C'est cette liberté-là qui est importante pour vous ?
Je pense que c'est la plus importante aujourd'hui, ouais.
Oui. Vous n'avez jamais été salarié, vous ?
Alors pendant l'apprentissage.
Oui, vous étiez en apprentissage,
3
oui.
3 ans. Et c'est suivi un an de mi-temps qui était en parallèle du lancement de l'entreprise.
Oui, d'accord. Donc peu de salariat, mais toujours cette envie d'avoir cette liberté d'entreprendre, de créer, d'avoir une idée, de pouvoir, entre guillemets, la mettre en musique.
C'est ça.
Comme
oui.
on veut.
Oui, complètement.
Ok. Qu'est-ce qui, justement, vous anime dans ce que vous créez ? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous ?
Je peux réfléchir à mes valeurs.
Vous n'avez pas réfléchi ?
Alors, je dirais créer quelque chose d'utile, déjà.
Oui.
Quelque chose que je fais avec l'envie.
Oui.
C'est hors de question que je fasse un truc qui ne me fait pas plaisir.
D'accord. Ça, pour certains, c'est un luxe. Hein.
Oui. Puis.
On parlait tout à l'heure, justement, de l'application qui est en fin de développement avec la Fabrique d'Emploi et Territoires. On a parlé aussi du site du web 3D pour les petites entreprises. Vous semblez quand même un peu attaché à ce qui est Made in France, à ce qui est local ?
Oui, c'est vrai, ouais, complètement. Ouais. Bah, puis du coup, ça me donne des idées sur pourquoi je fais telle ou telle appli, telle ou telle entreprise. Le Serious Game, par exemple, je trouve ça important de savoir ce qu'on aime. Et,
oui.
et je trouve ça important de faire quelque chose qu'on aime. Donc le Serious Game, c'est complètement cette optique-là.
D'accord. Aider les jeunes à trouver ce qu'ils aimeraient faire.
Ouais.
C'est ça, en fait.
Ou au sens plus large, savoir, enfin, que tout le monde fasse quelque chose qu'il apprécie, quoi.
D'accord.
Et qu'on voit pas, par exemple, le travail comme quelque chose d'obligé pour vivre. Mais plutôt que ça se confonde, enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Je confonds un peu le travail avec le personnel. Et je fais en sorte d'être bien dans ce que je fais.
Alors c'est important parce que au cours des différents rendez-vous de l'économie du territoire, je rencontre quand même des chefs d'entreprise qui sont marqués justement par un changement de mentalité et un changement en fait de la population dans son regard au travail, avec une nécessité, alors une envie légitime de pouvoir équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle, mais qui semble parfois créer des déséquilibres et donc poser des problématiques de recrutement, par exemple, où on a au fur et à mesure des fois l'impression que le travail est plus vécu comme un moyen d'épanouissement et un moyen un ascenseur social aussi, mais plutôt comme une contrainte et uniquement une contrainte. On a l'impression depuis quelques années qu'on a ce changement-là, et vous, ce que vous nous dites, c'est exactement le contraire. C'est important que les gens fassent ce qu'ils aiment et que le travail ne soit pas une contrainte.
Ah oui.
C'est important de le dire, parce que finalement, souvent on entend plutôt ce frein que rencontrent les entreprises, notamment pour les recrutements. Disons, les personnes n'ont pas forcément envie, alors qu'on s'adapte, on offre des conditions salariales qui sont bonnes, on prend soin de nos salariés, et finalement on a des postes qui trouvent pas preneur.
Oui, je le vois au quotidien, même oui. Si ça a l'air d'aller de mieux en mieux, j'ai l'impression, mais je trouve ça dommage en tout cas.
Oui. Qu'est-ce qui explique, selon vous, justement, ce ressenti qui peut être un peu négatif vis-à-vis du travail, alors que c'est aussi un moyen d'épanouissement, et vous nous le montrez?
J'ai pas beaucoup d'expérience salariale. Mais,
oui, mais de façon plus générale, en fait, le rapport au travail, finalement.
Mais je pense que c'est l'impression de servir à quelque chose.
Se sentir utile, c'est important.
Je pense que c'est essentiel.
D'accord.
Je pense que c'est essentiel. Après, bon, chaque cas est différent, mais déjà, s'il y a ça, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Si on se sent écouté, déjà, je pense.
C'est pas mal. Si on parle des projets que vous avez pour vos entreprises, pour vous-même, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous aimeriez faire?
Alors moi, je suis plutôt technicien, donc les grosses lacunes qu'il y a, par exemple sur la première Géolokit, c'est le commerce. Donc là, en ce moment, c'est à fond commerce, présenter l'outil à un maximum de monde, aller sur des salons,
oui.
Finaliser les prospects en clients.
D'accord.
Sur Businessland, c'est pas pareil, parce qu'il y a Christophe, par exemple, qui est très bon en commerce et en contact. Là, c'est plutôt sur trouver les premiers cas d'usage, les premiers clients qui nous font confiance. Vu que c'est un sujet, enfin, vu que ça n'existe pas aujourd'hui, on est obligé de le présenter, de dire regardez comment ça serait bien pour vous. Et après, avec ces exemples de premiers clients, les montrer à d'autres. Donc là, on est à la fois sur. Trouver un besoin, ou voir le créer des fois en disant c'est mieux.
Donc en fait là on est sur de la construction sur mesure en fonction de ce que veut faire le client.
Oui c'est ça, oui. Ça... Donc comme première étape on propose que du sur mesure, mais l'idée c'est d'aller vers comment dire, laisser la possibilité au client,
oui.
De construire lui-même son environnement 3D.
Ah oui, donc c'est vraiment une participation du client à la construction de ce qu'il veut mettre en avant. Quoi.
C'est ça, oui. Pour les auditeurs qui utilisent un WordPress ou un Wix ou quelque chose comme ça, nous, c'est ce qu'on cherche à faire.
D'accord, un outil qui permet de ça.
Pour les sites web 3D, on veut faire un Wix 3D, finalement, avec un back-office. Et on développe un moteur de recherche aussi, avec une rue qui se construit en fonction de notre recherche. Et là, on veut plutôt être un Google 3D.
D'accord, un Google 3D. D'accord. Et alors, si on conclut cette émission, j'aime bien moi demander ce à quoi rêvent nos invités. Je trouve que c'est important de rêver. Alors vous disiez tout à l'heure, je voulais devenir riche et puis finalement, c'est pas fait. Ça fait partie de vos rêves ou vous avez des rêves plus fous?
C'est vrai que ça serait bien, hein. Je vais pas cracher dessus, mais...
C'est pas une finalité en soi?
Non, je dirais qu'il y a plein d'initiatives de métaverses diverses et variées qui sont pas terribles de mon point de vue. Et moi, j'aimerais que ce qu'on est en train de développer avec Businessland, ça devienne la référence, comme Google pour les moteurs de recherche.
D'accord. Donc on en reparle dans quelques années, justement, pour savoir si Businessland est devenu le Google 3D. C'est ça?
Avec plaisir.
Avec plaisir. Merci Julien Quineau d'avoir été notre invité de ce jour. Merci. À bientôt. Bon vent et bon développement.
Merci à vous.
Merci aux auditeurs et à très bientôt.
Bonne journée.
Au revoir.